Quelles sont les bénédictions que Yaakov donne à ses enfants? Alors, on peut, le plus rapidement possible, mais enfin c'est un petit peu long quand même, passer de fils en fils, essayant de voir un peu la nature de la bénédiction. Réhouben, dans le verset, on dit qu'il est bouillonnant comme les eaux, qu'il n'excellera pas. C'est une des bénédictions les plus dures. Et les rabbins y voient à la fois un mélange de grandeur potentielle, mais de déchéance aussi. Car Réhouben était le premier-né. Il avait droit aux trois privilèges du premier-né, la prêtrise, la royauté et une double part d'héritage. En fait, il n'a pas eu tout ça. Il aurait dû être roi, mais la royauté est passée à Yehuda. Il aurait dû être grand prêtre. La prêtrise est passée à Lévi. Et quant à la double part d'héritage, elle est revenue à Yosef, puisque deux de ses fils vont être des fondateurs de tribus, Éphraïm et Menaché. En fait, Réhouben a perdu tout cela, tous ses droits, à cause d'un acte impulsif. À la mort de Rachel, Jacob a transporté son lit dans la tente de Bilha, une de ses femmes. Mais Réhouben, fils aîné de Léa, pour lui, c'était un affront direct à sa mère. Alors, il a été reprendre le lit de Jacob et il a été le mettre dans la tente de sa mère, Léa. C'est donc un homme de cœur, mais il a agi avant de réfléchir. Cette énergie qu'il a, il ne l'a pas bien utilisée parce que ce n'était pas la volonté de Jacob. Et on nous dit que à cause de ceci, il a perdu un peu les droits que l'on vient d'expliquer. Shimron et Lévi sont bénis dans une bénédiction assez proche. Jacob rappelle que ces deux frères sont inséparables. Ils ont le même tempérament fougueux. Et leur fraternité, c'est une affinité de caractère, une énergie commune, intense, parfois dangereuse. Et en fait, cela fait allusion à l'épisode de Shrem où Shimron et Lévi, indignés par l'humiliation de leur sœur Dina, ont frappé toute une ville et leur zèle pour la justice en faveur de leur famille s'est transformé en colère incontrôlée, en une fureur que même Jacob a condamné. Il a condamné la colère. Il n'a pas condamné ses enfants, il a condamné la colère de ses enfants. Leur impulsivité, leur manière de laisser la passion l'emporter sur la réflexion, sur la sagesse. Et c'est pourquoi Jacob déclare, je les disperserai, je les disséminerai, disséminerai. Dispersion qui n'est pas seulement une sanction, c'est aussi une manière de diluer leur force, moins dangereuse lorsqu'elle est concentrée. Shimron sera réparti en petites enclaves au sein du territoire de Yehuda, et Lévi deviendra une tribu dispersée dans tout Israël pour servir dans les villes et au temple. Ainsi, ce qui devient une violence brute, ce qui était une violence brute, devient chez Lévi une énergie sanctifiée. Quant à Shimron, sa force est contenue par la proximité de Yehuda qui l'encadre et l'apaise. Voilà donc pour ces deux frères. Yehuda se révèle comme une tribu de la force, de la noblesse, de la royauté, mais aussi de l'espérance messianique. Celle vers qui converge la louange des frères et la soumission des ennemis à la fin des temps. Jacob annonce que Yehuda sera loué, reconnu, respecté par toutes les tribus d'Israël. On a une image, c'est celle d'un jeune lion qui souligne donc sa puissance. Il est fougueux, il est noble, il est redoutable, il avance sans crainte comme le lion, il incarne la majesté et la confiance tranquille de celui qui n'a rien à redouter. Et on nous dit, le sceptre ne quittera pas Yehuda. C'est de Yehuda que sortiront les rois jusqu'à ce que Shiloh vienne, depuis David jusqu'à Shiloh, c'est-à-dire, nous expliquent nos maîtres, allusion directe au Mashiach. Yehuda est donc le porteur d'une promesse qui dépasse l'histoire immédiate et qui touche à la destinée ultime d'Israël. Et les Mekoubalim considèrent qu'il correspond à Malchut, la présence divine qui va se manifester dans le monde. Zevulon, sixième fils de Léa, on entend à propos de lui qu'il aura un territoire côtier propice au commerce, qu'il sera proche de Sidon. Sidon, c'est la Phénicie, donc il est proche de ce peuple de navigateurs. Son rôle économique soutient l'ensemble d'Israël. Donc, on a une vocation économique qui est là indiquée dans le pshat de la bénédiction de Yaakov. Rachi remarque que Yaakov a donné la bénédiction à Yaakov avant celle d'Issachar, alors que Zevulon est plus jeune que Issachar. Cela, nous dit-il, souligne un rôle particulier. Zevulon, marchand, marin, va financer l'étude de la Torah d'Issachar. Grâce à lui, Issachar pourra se consacrer entièrement à l'étude. C'est donc le modèle classique du partenariat. Un étudie, l'autre le soutient matériellement. Et Moïse, plus tard, dans le Devarim, va aussi donner des bénédictions aux tribus. Et il va confirmer le partenariat économique spirituel déjà établi par Jacob. Il amplifie même le modèle et Zebulun est associé à la sortie, au commerce, aux activités extérieures, alors que Issachar est associé à la tente, à l'étude, à l'intériorité. C'est la tribu qui attire aussi les nations vers la connaissance divine. Et le commerce devient un pont spirituel qui ouvre Israël au monde extérieur, pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau spirituel. Dans la Kabbale, il va incarner la capacité d'amener la lumière divine dans des lieux lointains. Pour la Chassidoute, le rabbin de Lubavitch nous explique cela. C'est en restant fidèle à la Torah et aux mitzvot, malgré les préoccupations inhérentes à leurs activités, que les membres de la tribu de Zebulun ont démontré que la sainteté est ancrée dans l'âme juive. Démonstration que ne pouvaient faire ceux qui demeuraient déjà en Terre Sainte. Ils étaient hors de la Terre Sainte, mais ils conservaient leur sainteté. Et cela, malgré une vie compliquée. Il y avait des déplacements permanents, des traversées maritimes et des séjours dans des villes étrangères où il leur fallait être en contact avec des idolâtres. Il y a là une importante leçon à tirer, nous dit le rabbi de Lubavitch, notamment pour notre époque. Tous les juifs n'ont pas la possibilité de consacrer toute leur vie à l'étude de la Torah à plein temps. Un jour, le monde entier comprendra l'importance qu'il y a pour toute l'humanité à ce que les juifs étudient la Torah, au lieu d'être cordonniers, coiffeurs, comptables, informaticiens. En attendant, il leur est nécessaire de gagner leur vie en ayant un métier, comme les descendants de Zébulon. Par ses bénédictions, Jacob nous apprend que même les Juifs qui auront des activités professionnelles prenantes dans le monde du travail, eh bien, ils aideront ceux qui étudient à plein temps de manière à bénéficier tout de même du mérite de l'étude. Et ils essaieront au maximum de faire tout de même une place dans leur vie à l'étude de la Torah, à leur mesure. La bénédiction de Dan est assez étonnante, puisqu'on nous dit qu'il sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, etc. Et la bénédiction se termine par J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Donc le Midrash explique que Jacob prophétise ici Shimshon, issu de la tribu de Dan, qui représente la délivrance inachevée. Et Jacob dit, en exprimant l'espoir, l'attente, que viendra le salut messianique, puisque la tentative de Dan n'a pu aboutir. De Dan, je veux dire de Shimshon, de Samson, Samson, qui était issu de cette tribu. On nous dit que Dan jugera son peuple. Eh bien oui, Shimshon fut juge en Israël. Juge, c'est-à-dire chofet. Et chofet, ça ne veut pas dire magistrat. Ça veut dire la fonction politique plus la fonction de juge. Il était serpent sur le chemin, allusion à la manière dont Shimshon frappa les Philistins par ruse, seul, comme un serpent qui attaque soudainement. Et dans la bénédiction de Jacob, il y a J'attends ton salut éternel, c'est que Jacob voit que Shimshon échouera à libérer totalement Israël et il prie pour le salut final. Quant à Sforno, il va procéder à une lecture un petit peu différente. Il voit dans le... Ça va dans le même sens, hein, mais la tonalité est différente. Il voit dans le serpent une métaphore de la stratégie militaire. Dan n'a pas la force brute de Yehuda, il n'a pas la force brute de Yosef, mais il sait compenser par une intelligence tactique ce qu'il n'a pas comme force brutale. Et c'est ainsi qu'a agi Samson. Il était seul et il était au milieu des Philistins, mais il frappait là où on ne l'attendait pas. Le sode, la vision mystique des bénédictions de Dan, nous indique ceci. Le mot serpent, il faut le voir comme le combat contre les forces du mal. Et j'attends ton salut, c'est que Jacob voit que Dan sera exposé à un danger spirituel. Et il demande le salut pour Dan. Et de fait, Jéroboam, roi du royaume d'Israël, après la division du royaume de Salomon, a installé un veau d'or dans la ville de Dan. Et la tribu de Dan se trouvait alors à la limite nord du pays, tout contre les frontières avec les Phéniciens et les frontières avec Aram, la Syrie. Donc les influences idolâtres était très forte sur cette tribu, d'où la bénédiction de Jacob. Passons à un autre fils, Gad. Une bénédiction qui annonce le destin particulier de cette tribu qui était installée à l'est du Jourdain, dans une région exposée aux incursions ennemies, en première ligne, régulièrement attaquée par les Ammonites, par les Moabites et par d'autres peuples des confins orientaux. Loin d'être vulnérable, Gad se distinguait par sa force militaire et sa capacité de riposte. Lorsqu'une troupe l'attaquait, il repoussait l'assaut, il reprenait l'initiative et il poursuivait l'ennemi jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. On a donc c'est un peu la bénédiction, Gad, une troupe lui tombera dessus, mais lui, il leur tombera sur les talons. Enfin, c'est mal traduit, mais grosso modo, c'est cela. Quant aux maîtres du Sod, ils indiquent que Gad est lié à Netzar, la capacité de triompher après l'attaque. Il incarne le combat sacré, c'est-à-dire la lumière qui surgit dans les lieux où l'ombre semble dominer. Voilà, on a encore quelques fils et quelques bénédictions à voir sur Asher. On nous dit que de lui viendra un pain gras et il fournira des mets délicats au roi. bénédiction l'une des plus positives et généreuses de celle de Yaakov, on montre Asher comme une tribu de l'abondance et de la qualité raffinée, avec un territoire fertile et avec une abondance agricole d'une grande qualité. Et d'ailleurs, ce mot même, c'est une allusion en hébreu, le mot veut dire heureux. C'est le bonheur matériel en accord avec le sens même du nom. Du point de vue des Mekoubalim, Asher est lié au Chesed, à la bonté, à la fécondité. Il incarne la joie simple, la bénédiction qui nourrit, la richesse qui apaise. C'est l'attribut du bonheur visible. Naphtali est béni avec ces mots, c'est une biche, etc. Il profère de belles paroles, images qui montrent qu'il y a d'abord une abondance matérielle, une grâce divine particulière et un territoire fertile. La rapidité de la biche devient de plus tard dans des barim, quand Moshe bénira également, eh bien, ce sera une terre fertile, une terre qui produit vite un peuple joyeux, prompt à accomplir la bénédiction, la volonté divine. Le Midrash souligne aussi la beauté naturelle de Naphtali, de ce territoire-là, qui comprend le lac de Kinneret, des sources d'eau, des paysages splendides. Et pour les maîtres du Sod, ils représentent la lumière qui se déploie avec élégance. Joseph va recevoir également des bénédictions. Et pour le Midrash, Joseph est un rameau fleuri d'une beauté éclatante. Il attire les regards, mais reste pur, fidèle à Dieu, malgré les tentations, malgré les épreuves. Le Midrash ajoute que Yosef est constamment protégé par Dieu. Cette image souligne une double bénédiction qui repose sur Yosef. Une bénédiction matérielle, faite de terre fertile, de pluie, d'abondance, une bénédiction spirituelle, marquée par la protection divine et la grâce et la sagesse. Ainsi, il apparaît comme celui en qui se rejoignent à la fois la prospérité et la lumière de l'esprit. Pour les maîtres du Sod, c'est le canal de la bénédiction. Il est relié à la Séphira de Yesod, qui est justement la Séphira qui relie le ciel et la terre. Binyamin, lui, est décrit comme un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Que comprendre de cela? C'est une image qui décrit Benjamin, Benjamin, comme un loup, rapide, courageux, agressif. C'est le symbole de la puissance militaire de cette tribu. Mais il possède, Benjamin, une dimension unique. Il est le seul fils de Jacob qui est né en terre d'Israël. Et de ce fait, il est entouré d'une pureté tout à fait particulière. Selon la tradition, le fait que le temple se trouve dans sa portion de territoire, c'est une récompense pour cette pureté particulière qu'il possède étant né en terre d'Israël. Alors, on sait qu'il y aura le temple sur son territoire, et comment comprendre les mots? Le matin, il dévore la proie, le soir, il partage le butin. Eh bien, nos maîtres nous expliquent que cela est compris comme des allusions au sacrifice. Manger le sacrifice du matin et sacrifice du soir. Il est, Benjamin, au service du culte de Hachem. Pour les maîtres du Sod, il représente la puissance canalisée, la rigueur sublimée, la protection de la présence divine. Il n'a pas une force destructive. Sa force, elle est au service du sacré. C'est celui qui entoure la lumière et la défend. Voilà donc, on a fait le tour des différentes bénédictions données aux enfants d'Israël. Voilà donc les bénédictions données à chacun des enfants d'Israël. Mais À l'ensemble de ses fils, il donne un autre enseignement que l'on ne voit pas dans les versets. Du moins, il faut aller chercher à l'intérieur du verset pour comprendre cet enseignement. Il y a là un chidouche qui nous a été transmis par Rav Yeshaya Bakish, Zichron Tzadik Kdoshim Livracha, qui son enseignement a été donné à Fès, et c'est une des personnes qui a recueilli cet enseignement qui l'a transmis à l'auteur d'un manuscrit écrit en 1818 à peu près. Ce chidouche correspond au décodage du verset 49 bet de Bereshit. Jacob dit à ses enfants ensemble, réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. En hébreu, Ikaftsu veshimaou bnei Yaakov veshimaou el Israël avirem. Voilà donc l'enseignement. On est tenté de dire, c'est une introduction à un enseignement, ce n'est pas un enseignement. Il n'y a pas de consigne. Eh bien, détrompez-vous. Rav Yeshaya Bakish a décodé, nous a transmis lui-même, certainement un chidouche, soit de lui-même, soit de ses maîtres. Il a dit ceci. Chaque mot de ce verset contient une phrase. C'est le procédé du notarikon. Chaque lettre de chaque mot devient l'initiale d'un autre mot. Et dans ce cas, nous avons donc le manuscrit qui nous dit ceci. Rod shamarti. Et j'ai aussi entendu, c'est-à-dire entendu de ce maître. Et il révèle. Rachetevot bepasuk. Ce pasuk est constitué d'initiales. Toutes les lettres sont des initiales d'autres mots. Et il va donc détailler, il cite le verset, bien entendu, après quoi il détaille les rachetevot de chaque mot, et on découvre quelles ont été les recommandations générales de Yaakov à ses enfants. Recommandations générales qui ne sont pas dites en clair, mais elles sont en filigrane de ce verset. Donc, Ikavtsu est formé des lettres He, Kof, Bet, Tsadé, Vav. Eh bien, chacune de ces lettres, je ne détaille pas tous les versets, je vous donne simplement la traduction. Ce mot-là devient Soyez saints, bénis, pieux et justes. Ayou, c'est le verbe soyez. Kedushim, Kof, le Kof de Ik. C'est la deuxième lettre du mot, le Kof. Beruchim, c'est la troisième lettre du mot. Bet. Tzadikim, quatrième lettre du mot. Vehasidim, la dernière lettre de ce mot. Soyez saints, bénis, pieux et justes. Sur le même modèle, le mot Veshimru devient Priez Shachrit, Mincha, Arbit, et soyez, le mot suivant nous donne la suite, béni, béni, béni en hébreu, hein, béni, c'est le mot du verset, Bet Nun Yud, ça devient soyez béni devant votre Créateur. C'est-à-dire le dernier mot du notarikon précédent, c'était Vetiyu, et soyez. Et le premier mot du notarikon suivant, c'est béni, beruchim. Puis on a Yaakov qui devient en notarikon Yisraël, etc. Les enfants d'Israël sont garants ensemble l'un pour l'autre. Quant au mot suivant, il devient et le respect du Shabbat est une mitzvah pour vous et moi, Hachem, je vous répondrai à vos prières. Et après, il est écrit, Hachem vous rajoutera une bénédiction double par rapport à vos efforts. Et le scribe conclut, Rayin Gershaim Chaf, c'est-à-dire Rad Kan, jusqu'ici. C'est comme s'il nous dit, voilà, je vous ai transmis l'enseignement de ce sage, et jusqu'ici, je n'ai rien d'autre sur ce plan. Voilà donc ce que l'on apprend comme bénédiction générale que Jacob disait à ses fils d'une manière un peu codée au début. mais à l'ensemble de ses fils. Une tribu peut correspondre à deux séphirotes, pas seulement à une seule, donc puisqu'on a 10 séphirotes et 12 fils. Pourquoi? Parce que une tribu, c'est une énergie complexe. Donc on ne peut pas tout simplement dire, par exemple, Gad, c'est Netzar, la victoire. Non, c'est aussi Gvoura, la force. Ou dire Dan, c'est Din, la justice. Mais c'est aussi Hod, la réception, la vigilance. Naphtali, ce n'est pas seulement l'harmonie, mais c'est aussi l'élan, Netzar, la victoire. Donc, on a ici de même Benjamin. Il combine deux séphirotes, Gvoura, la puissance, on l'a dit, sa force militaire, mais aussi Malchut, avec le temple. Donc, voilà la première raison pour laquelle une tribu peut correspondre à deux séphirotes. Il y a encore une autre raison, c'est que les séphirotes sont organisés en duos complémentaires. Hesed, Gvoura, Netzar, Hod, Chochma, Bina, Yesod, Malchut. Donc une tribu peut exprimer l'équilibre entre deux pôles. Et enfin, une séphira peut se déployer à travers une autre, car la lumière divine, elle circule en combinaison et non en bloc isolé. Ainsi, Yehuda, il représente Malchut, mais il porte aussi une dimension de Tiferet royale, comme David. Benjamin, on l'a dit, est Gvoura, mais sa fonction de gardien du temple le relie à Malchut. Et donc, on a ainsi toute une série de correspondances. Réhouben, c'est Hesed, bonté débordante. Et Shimron, c'est Gvoura, rigueur, jugement. Lévi, Gvoura, Tiferet, feu sacré et zèle purifié. Yehuda, Malchut, plus Tiferet, la royauté, plus la dignité messianique, et également la dignité royale, comme David. Issachar, c'est Bina, plus Chochma, sagesse, plus étude et compréhension. Zevulon, c'est Netzar et Hod. Netzar, c'est l'expansion, c'est la victoire, le mouvement, la diffusion. Dan, c'est Hod plus Din, à la fois la justice et la vigilance, la protection. Gad, Netzar plus Gevura, c'est la victoire dans l'épreuve. Asher, Hesed plus Malchut, l'abondance, la prospérité. Naphtali, Tiferet plus Netzar, grâce, joie spirituelle. Yosef, c'est Yesod plus Tiferet, canal de bénédiction et de pureté. Quant à Benjamin, c'est, on l'a déjà dit, Gvoura et Malchut, une force protectrice qui est gardien du temple. Voilà, on a fait le tour de ces bénédictions. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.